Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, épisode numéro 7, le 8e épisode. Et aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux tels que Hubert Sablenière. Bonjour Hubert Sablenière, qui êtes-vous ?
Bonjour à tous. Donc moi, je suis Hubert Sablenière. Je travaille chez Clever Cloud et chez Clever Cloud, je travaille sur tout ce qui est un peu front-end, nos composants, notre console web et notre outil en ligne de commande, les Clever Tools.
Je suis aussi accompagné de Blacksoup, Arnaud Lefebvre. Bonjour Arnaud, qui êtes-vous ?
Hello, Arnaud, en effet, je travaille aussi à Clever Cloud et je m'occupe principalement en partie de la console, donc le dashboard web, et de quelques intégrations d'add-ons comme Elasticsearch, Jenkins, etc.
Voilà, donc si vous n'avez pas compris, il y a Arnaud et Hubert, on va parler de JS aujourd'hui. Je suis aussi accompagné de Quentin Adam, dit Pingouin. Bonjour Quentin Adam, qui êtes-vous ?
Bonjour moi je suis CEO de Clever Cloud, ce qui veut dire que dans la vie je réponds à des mails.
Voilà, pour le bien-être de ces employés qui, eux, n'ont pas envie de répondre à des mails, mais d'écrire du code. Merci, Quentin Adam.
Merci.
Merci.
Il est bon de le rappeler. Alors, on commence tout de suite par Europe Faces Judgment Day on an Apple Tax Crusade. Alors, ce que vous voyez à l'écran, parce qu'aujourd'hui, on va essayer de vous montrer un peu les liens qu'on a choisis, c'est Margaret Vestager qui est en croisade, so they say. En gros, Apple fonds de l'évasion, il y a 12 milliards de taxes à récupérer. 13. Bref, c'est beaucoup d'argent.
Donc en comptant milliards, c'est important.
C'est pas faux. Et je cite Tim Cook qui a dit que c'était total political crap. Et le jugement, pour savoir si oui ou non ça devait arriver aujourd'hui, a été donné aujourd'hui. Et donc, il y a un tweet de la Cour de justice européenne qui annule globalement ce jugement. Et donc, non, Apple ne rendra pas l'argent, ne rendra pas les 13 milliards d'euros de taxes à l'Irlande. Donc, virtuellement, effectivement, l'Irlande est de 13 milliards plus pauvre. Un avis là-dessus, messieurs ?
Mais alors, du coup, c'est... de par le fait qu'au niveau fiscal, ils passent par l'Irlande, ils ont réussi à avoir des réducs ou des trucs comme ça et...
Ouais, c'est ça. En fait, l'État irlandais fait des négociations de gré à gré avec certaines boîtes pour leur faire des économies en fait en taxes. Fiscal. Et en fait, le concept, c'est que la Cour européenne de justice est moyen d'accord avec ce phénomène-là. Et donc là, le but de la Cour de justice, c'était de faire péter cet accord-là de gré à gré entre l'Irlande et Apple. Sachant que, enfin, moi personnellement, je trouve cette pratique de dumping fiscal entre les pays européens absolument débile et vraiment de mauvais goût. Et je pense qu'il y a, je pense que la réponse aujourd'hui, elle doit se faire plus globale au niveau de l'ensemble des pays de la zone G20. Quoi. Il faut empêcher ces boîtes de continuer à faire de l'exode fiscal. Et je tiens à rappeler que c'est vrai pour Apple, mais c'est vrai pour les autres GAFA également, et qu'à chaque fois que vous achetez leur pays, vous favorisez la destruction de l'État public français. Quoi. C'est, concrètement, c'est ça le problème, oui, c'est que c'est des gens qui ne payent pas leur infrastructure.
C'est même pas que de la tech, il y a un docu sur Arte sur Starbucks qui était du même ordre, où il explique qu'avec les Pays-Bas ou l'Irlande, ils arrivent à faire toute une magouille fiscale justement pour éviter ce genre de choses, et ils sont depuis 15 ans au UK, et t'as une juge UK qui demande à Starbucks, mais comment vous expliquez que vous faites aucun bénéfice chez nous, quasiment pas? Et le mec, tranquille, fait, non, mais on vient de se lancer, c'est compliqué.
On vient de se lancer.
Non, mais enfin, c'est ahurissant.
Et, c'est magique.
Ouais, c'est un peu triste, du coup, comme nouvelle là, sur Apple.
Ouais, moi, le truc qui me rend triste aussi, c'est que c'est un camouflet pour Margaret.
Oh,
c'était un peu sans dire anti-GAFAM, c'est quand même elle qui portait ce combat-là. Et du coup, là, globalement, elle s'est pris une tôle et c'est triste parce que, du coup, elle perd un peu de
son poids. Moi, ce qui m'attriste le plus, c'est qu'une fois de plus, dans les news françaises, ça a été calme plat. Personne n'en a parlé. Donc, comme d'hab, la politique européenne, on s'y intéresse les deux mois avant les européennes en France, ce que je trouve extrêmement fatigant. Et si jamais vous avez vu un commissaire européen autre qu'un commissaire européen français invité sur un des grands médias nationaux, vous me faites signe, parce que ça n'arrive jamais, c'est quand même assez triste. C'est-à-dire qu'on va inviter le français, tu vois, genre, et au fait, toute l'Europe, ça va comment, tu vois, à chaque fois, donc c'est assez terrifiant. Donc moi, c'est ce qui me terrifie dans le cas présent. Après, c'est un parmi les multiples plans qu'il y avait pour leur taper de l'argent. Donc il y a plein de plans pour les faire rentrer dans le chemin fiscal.
Alors,
je
ouais,
pense que c'est important qu'on en ait plusieurs.
C'est pas leur taper de l'argent, c'est pour qu'ils rendent l'argent.
Soyons clairs.
Ouais, c'est ça. Je crois qu'il y avait aussi Starbucks en effet qui est visé, parce que Apple est juste le plus gros apparemment avec 13 milliards, mais il y en a plusieurs un peu plus petits, on va dire, à quelques centaines de millions, je sais pas. Voilà quoi. Ouais, mais du coup je sais pas, ça va créer un précédent.
Un précédent et du coup une jurisprudence peut-être, je sais pas comment ça marche côté européen.
Bah non plus.
Bah encore une fois là, c'est un deal ad hoc. Donc en fait, vu que c'est un deal ad hoc qui a été conduit entre Apple et l'Irlande, c'est compliqué parce que comme c'est un deal ad hoc, ça va pas nécessairement avoir un énorme impact. Voilà.
Okay.
Ça veut pas dire que c'est cool, mais pas nécessairement un énorme impact. Donc on passe.
We'll see. Lien suivant, ça c'est aussi ma faute, c'est le State of DevRel, c'est donc la septième édition, septième fois qu'ils font une étude très large, en gros ils font un sondage pendant 6 mois. Sur l'état du DevRel dans le monde. En général, en tant que practice, en tant que discipline, et pas en tant nécessairement que métier. Et c'est intéressant, cette année, t'as deux grosses informations qui se démarquent vraiment de tout ça, c'est que les années précédentes, c'était très centré Silicon Valley, maintenant c'est un peu sorti de tout ça, et c'est un peu plus mondialisé. Et surtout, t'as pas de département particulier auquel le DevRel répond. C'est une question qui se pose très souvent quand tu fais du DevRel. Entre DevRel, on se dit, mais toi, tu reportes à qui? T'es marketing, t'es engineering, t'es produit, t'es machin, t'es tout. Bon, et personne n'a de réponse là-dessus. Bon, en tout cas, toutes les réponses sont très différentes. Et moi, je trouve ça assez intéressant. Et je fais un shameless plug et je vais faire un talk là-dessus et publier un article là-dessus demain sur le fait qu'il faut péter les silos du DevRel, que toute la boîte doit avancer à la même vitesse, à la même envie dans le DevRel. Ce qui est pas forcément évident de prime abord, mais chez Clever, globalement, ce qu'on est en train de faire, c'est du DevRel, toute la boîte s'y met. Quand il y a une nouvelle feature qui sort, vous êtes plusieurs à participer, à écrire et tout, c'est pas juste faire du DevRel, il y a déjà cette notion un peu organique de, quelque part, ça concerne toute la boîte, il n'y a pas un silo de, Valérie et moi, on fait du DevRel, on est tout seul dans notre coin, et puis les autres, voilà. Et bon, il y a quelques autres trucs intéressants, il y a évidemment les différences entre budget, entre salaire, la quantité de produits gérés, ce genre de choses. Je vous invite à jeter un œil là-dessus.
Tu sais donner des exemples de sur tel projet ou dans telle boîte, ça reporte plus au marketing et dans telle boîte plus à l'engineering?
Alors j'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps avec Olivier Leplus qui est chez Microsoft. Et Olivier, lui, fait partie du marketing et Julien Dubois, par exemple, fait partie de l'engineering. Donc tu as la partie vraiment marketing développeur qui reporte au market, normal. Et t'as la partie developer advocate où là globalement ton métier c'est pas forcément la lead gen. Globalement le DevRel marketing c'est de la lead gen, c'est pour ramener du lead qualifié. T'as la partie developer advocate qui est plus produit, qui est plus on va aller sur le terrain récupérer le feedback des gens et on va renvoyer ce feedback à l'équipe produit, donc à l'engineering. Et donc toi par exemple chez Microsoft, developer advocate engineering et marketing dev marketing.
Ouais, ouais.
Okay.
Ça dépend de la taille de la boîte, ça dépend de. T'as plusieurs situations. Il n'y a pas de. Je pense qu'il n'y a pas de
bonne ou de mauvaise.
Et voilà. J'en parlerai un peu plus dans mon blog et mon talk demain.
Après, fondamentalement, moi j'ai. En tant que CEO, je me suis tapé le boulot de DevRel chez Clever pendant plusieurs années et je pense que c'est comme ça qu'on s'est connu, Laurent, et aussi comme ça qu'on s'est connu, Hubert. Moi, c'est quand même un boulot où je trouve qu'il y a, quelque chose qui a pourri dedans ces dernières années, parce que au démarrage, c'était vraiment des développeurs qui allaient parler à d'autres développeurs pour expliquer ce qu'on faisait, et il y avait quelque chose du partage de connaissances universelles. Et ça fait quelques années que, en fait, c'est devenu une espèce de machine à laver où t'as des gens payés qui comprennent ou pas ce qu'ils sont en train de raconter à des développeurs. En disant, on a fait ça et ça marche, alors que quand toi tu connais l'interne de cette boîte-là, c'est pas vrai. Donc il y a un manque de sincérité scientifique, je trouve.
C'est très
sincère. et on les a transformés en bêtes de foire, quoi.
Ouais, c'était très organique au début, et comme ça s'est professionnalisé, effectivement, ça a un peu changé. Et t'as l'évangélisme au sens vraiment évangéliste bourrin, outreach, de je vais réciter mon discours et du coup je vais faire de la vente et de la lead gen, qui a un peu pris le pas sur tout ça. Et c'est là où nous on se différenciait, où effectivement les gens chez Clever qui font sont les gens qui parlent, ce qui est plus le cas dans beaucoup de boîtes maintenant.
Ouais. Moi je trouve ça assez triste. C'est en train de devenir en fait ce domaine qui devient progressivement une espèce de marketing plus ou moins crappy, bis. C'est juste que les gens du marketing savent pas parler aux développeurs et qu'il faut qu'on parle aux développeurs. Du coup, bah, on a un service de marketing spécialisé pour développeurs, mais avec la perte en fait de la connexion avec les pairs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'as de plus en plus de boîtes dans lesquelles, bah, t'es plus en train de parler avec tes pairs développeurs, t'es en train de leur vendre un truc, quoi.
C'est des choses qui sont en partie biaisées par les KPI demandés, parce que quand tu rentres dans ces grosses boîtes, tu rentres dans cette dynamique de KPI et de justification. Parce que bah, elle devrait payer des gens pour aller se balader, prendre des avions et puis des chambres d'hôtel, ça coûte de la thune. Et les mecs se font, mais rappelez-nous pourquoi on
vous paye.
Et il faut que tu apportes des KPI. Et en fait, chaque fois que tu commences à parler KPI, si ça a plus ou moins de sens, ça peut être biaisé, ça peut t'amener à faire plus de choses pour faire tes KPI qui n'ont pas forcément un sens en termes organiques, en termes, ce que tu disais, Quentin, en vrai, en fait, en quelque chose de logique et normal, et du coup, tu t'amener à faire de l'artificiel. Et là, en ce moment, il y a beaucoup d'artificiel. Ok. Lien suivant, sans transition, nous allons parler de SkyPack, Yet Another Smart CDN.
Qu'est-ce que SkyPack? Alors, en fait, SkyPack, faut qu'on revienne au début parce que on va parler de Pika et de à quel point personne comprend rien à ce qu'ils font. Donc, je me suis permis de me retaper tout leur historique. En gros, en février 2019, donc c'est très 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 récent, il y a un projet qui sort qui s'appelle PikaPack. Vous faites, en gros, cet outil vous sert à packager votre librairie JavaScript pour le browser, pour NPM, pour Node, etc. Vous lancez PikaPack et ça fait tout ce qu'il faut pour que les modules marchent bien un peu partout. Le mois d'après, il sort PikaWeb. Donc déjà, tu fais OK. Alors PikaPack, ça servait à ça. PikaWeb, ça sert à quoi? Et PikaWeb, c'est une des premières fois où ce groupe de gens est arrivé avec un modèle assez intéressant. C'est de dire, tu fais alors à l'époque c'était Pika Web install ou je sais plus quoi, Pika install. Ça regarde ton package JSON avec toutes tes dépendances JavaScript et au lieu de les mettre dans Node module, qui fait que pour les utiliser dans ton browser quand tu fais du React, du Angular ou autre, tu vas avoir besoin d'un bundler parce que bah, quand tu fais un port avec entre guillemets React, le navigateur il sait pas où est le fichier quoi. Alors que si c'est une URL, là il sait le trouver. Donc en gros, Pika Web à la base, c'était de dire, tu fais Pika install, un truc dans le genre, et ça installe toutes tes dépendances dans Web Bundles, et pas Node Module, et ça réécrit les imports vers tes dépendances avec des URL relatives. Ce qui fait que tu pouvais commencer à développer sans avoir besoin d'un bundler, et dans ton navigateur en localhost, ça importait nativement des modules JavaScript. Donc ça, c'était vachement intéressant et c'est un truc qu'ils ont amené, qui a commencé à prendre un peu d'ampleur. Le problème, c'est qu'après, ça s'est emballé. Donc en juin 2019, ils ont sorti un CDN. Alors bien sûr, ils vont, donc Pika toujours, Pika CDN, ils vont dire que c'est révolutionnaire, que machin. En fait, ça existait déjà avec NPKG de Michael Jackson. C'est un mec qui s'appelle vraiment comme ça. Donc c'est la communauté React et React Router, Michael Jackson. Et donc ils sortent un CDN et ce CDN est vraiment prévu pour les modules ECMAScript 6. ECMAScript. Donc jusque là, on est sur un groupe qui a créé une CLI pour packager des trucs, une CLI pour installer en local des nodes modules et ça marche plutôt bien, et un CDN. Depuis un an, ils se sont un peu emballés, ils ont renommé PikaWeb en Snowpack, ça servait toujours à installer des dépendances et de s'en servir sans bundler. Sauf qu'entre les deux, trois mois après le rebranding, ils ont fait Snowpack 2. Donc moi, quand une boîte fait deux versions majeures comme ça, et pas en mode SEMver, hein, en mode vraiment on a changé tout, ça me fait un peu peur. Et là, très récemment, je vous passe les autres détails qu'ils ont créés et qu'ils ont annoncés comme si c'était une révolution. Et là, il y a quelques jours, ils ont annoncé Skypack, qui est en fait le CDN qu'ils avaient déjà et qui a été un peu modifié. Voilà. J'en ai parlé un peu dans différentes communautés. Ce groupe-là, donc ils ont un Patreon avec 58 patrons. À chaque fois qu'ils sortent un truc, c'est révolutionnaire, mais en fait, bon, on est un peu dubitatif. Je pense qu'ils cherchent un business model avec ce CDN. Ils disent qu'ils ont une offre payante qui est en bêta sur invitation only pour l'instant. Je serais très curieux de voir qui va payer pour utiliser un CDN comme ça, alors que bah, ça fait un an et demi qu'ils réinventent la roue tous les trois mois. Donc c'est des gens à suivre parce qu'ils proposent des choses assez intéressantes pour se passer des bundlers, pour essayer d'améliorer l'expérience autour des modules ECMAScript standard. Mais je peux pas m'empêcher de me dire, j'ai du mal à faire confiance à ces gens tellement ça bouge tout le temps et ils se renomment et ils rebrandent et ils changent les fonctionnalités tous les 3-4 mois, quoi.
Et si t'as déjà fait staff, toi, de ton côté, t'as pas forcément l'intérêt à utiliser leur truc. En fait, si tout le monde a bien travaillé, est-ce que c'est nécessaire?
Alors, en fait, ça dépend. On va dire qu'ils ont vraiment deux choses intéressantes. Le CDN, c'est intéressant en tant que tel, mais il y a JSPM, il y a NPKG. Mais je pense que c'est quelque chose qui va grandir. Est-ce que c'est le leur qui va réussir? Tu vois, quand Deno est sorti, Deno, t'importes tes modules directement depuis des URL. Donc c'est typiquement un cas où avoir un CDN qui fonctionne sans bundler, c'est top. Et finalement, bah, la communauté Deno a pas non plus accroché de ouf à ce que propose Pika. Alors peut-être que maintenant, vu qu'ils rebrandent et qu'ils font du Hacker News et du machin, ça va peut-être reprendre, je sais pas. Et sur la partie... Vas-y.
Alors pour le côté de Deno, peut-être que c'était un peu trop récent encore à l'époque. Enfin, je sais pas...
Bah, en fait, ils ont tout de suite essayé de dire à la communauté Deno, venez, notre CDN, il est compatible et il est super pratique. Et en fait, si tu regardes un peu, ça devient pas le de facto truc, alors que ça aurait pu, quoi. Et par contre, toute la partie Snowpack, donc l'idée de dire on va avoir de moins en moins besoin d'un bundler, notamment au développement, bah, en fait, leur proposition prend pas des masses. Par contre, il y a deux projets intéressants qui font des choses assez similaires. C'est ES Dev Server, qui vient de la communauté Open Web Component, et VIT, qui est le nouveau projet de la communauté Vue, qui tous proposent en gros d'avoir une expérience de développement local où t'as plus Webpack qui défonce ton ventilateur en permanence. Et de faire amener dans ton navigateur des modules ECMAScript non bundlés en standard pendant la phase de dev, quoi. Ce qui permet de l'auto-reload hyper rapide et plein de choses vraiment bien. Donc, ils proposent des choses intéressantes, mais je serais pas étonné que ça finisse par faire pchit. Donc, à suivre.
Moi, la feature que j'ai le plus appréciée dans leur truc, alors je sais pas si NPKG le fait ou pas, mais c'est éviter de servir des bundles avec plein de polyfills dedans si ton navigateur n'en a pas besoin au final.
Alors ça, NPKG, je sais plus comment ils le font, mais ce que propose, alors j'allais dire Pika CDN, mais Skypack, c'est de t'auto fournir les polyfills dont tu as besoin ça. Parce qu'ils arrivent à faire cette détection.
Et ça, c'est cool.
Et je crois que JSPM, il faut que je revérifie, le fait. En tout cas, c'est un domaine de ces smart CDN, de ces genres de features qui est vraiment, vraiment intéressante par rapport au bon vieux CDN où on mettait cdn.com/jQuery et ça nous fournissait juste une librairie. Là, il y a vraiment, sur cette nouvelle génération, cette partie polyfill, toute la partie... regrouper tout un graphe de dépendance en un seul fichier si besoin, etc. Voilà.
Ok. On va passer au lien suivant avec Happy. On en avait parlé il n'y a pas très longtemps, c'était quoi, il y a 15 jours ou effectivement...
Il y a deux semaines, ouais.
Ouais. Projet laissé à l'abandon par son créateur original, mais...
Peut-être juste avant sur les CDN. Moi, aujourd'hui, je trouve ça très dur de lancer un CDN. Enfin, t'as quand même un énorme player qui est venu, qui a plié le marché, quoi. T'as le haut du marché, maintenant, c'est du Akamai. et le bas du marché, t'es parti sur du... T'es Cloudflare. Et Cloudflare, aujourd'hui, comment tu joues contre Cloudflare sur le CDN?
Alors, en fait, c'est là où le terme CDN, et c'est marrant parce que même en interne ce matin, on a eu des confusions en discutant avec Clément. Je pense que la partie distribuée globalement dans le monde en mode Akamai, Cloudflare, etc., des fichiers statiques, clairement, t'as raison, là-dessus, ils ont plié le game, etc. Ce que viennent apporter les outils dont on a parlé, JSPM, Skypack ou NPKG, c'est le truc avant qui va préparer les fichiers de la bonne manière pour ton navigateur et surtout pour les dépendances que tu as demandées. Et donc, certains font une partie à l'avance, d'autres le font en live. Moi, je pense que si tu couples Skypack, par exemple, avec un Cloudflare devant, ça veut dire que la toute première requête, potentiellement, elle sera dynamique, mais dans la manière dont ça fonctionne, il y a du hashing, du cache, etc.
Non, mais ça, on est d'accord.
Et donc ça, ce sera vraiment distribué à the edge, quoi. Mais t'auras forcément besoin des deux. Et du coup, est-ce que Akamai et compagnie vont rattraper sur ces petites features un peu nouvelles, c'est possible.
C'est surtout qu'aujourd'hui, comment tu crées un business qui repose sur le fait de lancer un CDN et te rentabiliser dessus, c'est pas facile, tu vois.
Ah, mais ça, c'est là que je n'y crois pas trop. Et puis moi, je fais pas confiance à un nouveau player pour runner du JavaScript dans mon application sensible, quoi. Enfin, voilà, il y a un moment, je chope ce qu'il y a dans le local storage ou le cookie client-side et puis c'est fini, quoi. Donc, voilà, faites bien
attention. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de modèle écho chez ces gens-là aussi, tu vois?
En plus
du fait que c'est des girouettes, est-ce qu'il n'y a pas un problème de modèle écho dans leur...
C'est là où wait and see, mais j'ai du mal à voir comment ça va prendre, décoller et gagner de l'argent. Tout ça. Après, c'est tout ce que je leur souhaite, hein, mais je sais pas.
We'll see. Et donc, retour à Happy.
Ouais, donc il y a deux semaines, API.js, le projet, donc le framework REST JavaScript, le créateur Aaron Hammer avait annoncé qu'il laissait tomber le projet, on se demandait qu'est-ce que ça va donner, c'était pas hyper clair sur le fait qu'il passe la main à des gens, et donc là dans notre Slack interne, Arnaud a posté cette issue du projet. Donc en fait, il y a une équipe de 7 personnes qui s'est constituée, qui a en implicite la bénédiction de Aaron Hammer, c'est-à-dire que lui, il explique bien, il y aura peut-être d'autres forks par d'autres gens, mais a priori, il a quand même donné les droits de commit et tout ce qu'il faut à cette équipe de 7 personnes. Après, il dit bien qu'il veut pas empêcher d'autres d'essayer d'autres idées, tu vois. Et donc dans ces 7 personnes, on retrouve. Alors il se propose de créer un technical steering committee et d'essayer d'imiter un peu ce que fait l'organisation Node.js avec une approche de gouvernance community driven. Et donc dans les 7 personnes, on retrouve un Français, un Lyonnais si je dis pas de bêtises, le community lead de Happy, qui travaille chez NPM. On a un membre du TSC de Node qui bosse sur libUI. On a plusieurs personnes qui bossent sur des projets majeurs chez Joyent, quelqu'un de Walmart, et après d'autres personnes peut-être un peu moins connues. Mais quand on regarde un peu les 7 personnes qu'il y a dans l'équipe, c'est super prometteur. Et surtout, donc pour ceux qui ont la vidéo, vous le voyez, mais ils annoncent 6 points qui comptent vraiment garder, à savoir la stabilité. Ils sont pas là pour faire un rewrite. Ils veulent garder 100% de code coverage via des tests d'intégration. Aucune dépendance externe, ça c'était vraiment la force de Happy, de maîtriser les dépendances et de pas tomber dans beaucoup de travers de projets Node où il y a 10 milliards de dépendances NPM qui viennent pour juste faire du is-promise ou leftpad.
C'est le moment où on parle de leftpad.
C'est ça. Une vraie transparence sur la sécurité avec une security disclosure policy, de follow SendVer, etc. Moi, de ce que je lis, je trouve ça, je trouve ça assez prometteur. Et c'est un peu ce qu'on attendait il y a 2 semaines, c'est qu'une équipe se monte. Et là, vu le profil des gens et vu leurs intentions, c'est assez prometteur. Je note que Eran Hammer, dans un autre message, explique que le module Joy, que peut-être des gens qui nous écoutent utilisent en dehors de AppyJS, qui fait de la validation d'objets, pour dire simple, va être sorti de l'organisation API et va continuer à être maintenu par Eran Hammer. Voilà. Est-ce que vous avez des feedbacks là-dessus? Toi, Arnaud, t'as lu l'article, vu que c'est toi qui l'as partagé.
Ouais. Du coup c'est un peu long, mais ouais. Non, je trouve ça cool en vrai, surtout de voir des noms qui sont déjà pas mal dans la communauté. Alors moi je parle surtout par exemple là de Colin, je sais pas comment ça se dit, Edring, là. Oui. Le mainteneur à l'UBV principalement du projet Node, qu'on retrouve pas mal en fait c'est ça. Donc non, c'est cool. Puis l'organisation un peu plus committee driven que de ce que j'ai cru comprendre avant, c'était pas le cas. Donc,
Cas parce qu'en fait une partie d'entre eux ont maintenu tous les projets connexes à API, que ce soit Boom, Bell, etc. Donc j'ai l'impression qu'on revient à ça, et ce qui n'est pas plus mal, je pense.
Ok. Non, mais moi la seule crainte que j'avais, c'était de voir un projet open source mourir avec son mainteneur qui part. Enfin, mourir dans le sens, il n'y aura pas de repreneur ou autre, et c'est pas le cas. Donc je trouve ça cool.
Et est-ce que
t'as été voir, pour les gens qui sentent le requiem d'un projet open source, alors que l'open source, le grand intérêt, c'est que quand quelque chose tombe, il y a quelqu'un d'autre qui passe pour le ramasser. Et ça, je trouve que c'est la force du projet open source.
Ben, ce qui est intéressant, c'est qu'Eran Hammer disait dans un message, il est triste de voir que plein de gens, assez vite, suite à l'annonce il y a 2 semaines, était prêt à faire des rewrites avec un autre projet et à dépenser de l'argent pour ça plutôt que de le payer lui pour maintenir le truc.
Ouais.
Et en fait, ce que tu vois, c'est que techniquement, j'ai l'impression que des boîtes sont frileuses, on en fait partie. Nous, on utilise un peu API et on va pas forcément payer Eran Hammer. Mais par contre, des boîtes sont prêtes à payer leurs collaborateurs pour en partie maintenir le projet. Et donc c'est un modèle un peu différent de financement, en fait, finalement. C'est pas je donne de l'argent à quelqu'un, c'est je donne de l'argent à mon employé que je donne déjà, et sur son temps de travail il va relire des issues, faire des commits, etc. De la même manière que nous avec Isomorphic Git, on sponsorise un peu le projet via de l'hébergement, mais surtout sur mon temps de travail ça nous est arrivé de faire des PR, des issues, etc.
Ouais, mais c'est pour une raison qui est simple, en fait. Dans ton temps de travail, on crée de la valorisation, on crée de la valeur pour la boîte. Parce qu'en fait, ta connaissance d'Isomorphic Git, par ailleurs, parce que tu es en mainteneur, te donne un avantage concurrentiel quand toi tu t'en sers. Si jamais tu finances juste une presta de service pour le sortir à côté, en fait, le truc a lieu, mais en fait, c'est toujours une boîte noire pour toi. Et c'est pour ça que les boîtes vont préférer financer leur collab à bosser dessus. Et c'est pour ça aussi que les plateformes de code non open source sont en train de disparaître. C'est pour ça que, tu vois, .NET est devenu open source. Parce que, factuellement, aujourd'hui, sur ce type d'outils, il est devenu assez clair que c'était plus rentable de créer de la connaissance en interne que de laisser partir la connaissance à volo. Et après, c'est extrêmement frustrant pour les gens qui aimeraient juste faire de l'open source et qui aimeraient juste être payés pour bosser sur leur projet open source, et que ce soit en plus leur boîte et ne pas avoir de patron. Oui, ça veut dire que ça peut marcher. Tu payes des Patreons, mais nous on le fait. Hein. Il y a des projets open source qu'on sponsorise en Patreon.
Sur WireGuard peut-être, pas via Patreon celui-là.
Si, via Patreon celui-là, ça a d'ailleurs été un problème comptable relativement fort, mais je ne m'étendrai pas au sujet. Mais en fait, le truc est toujours le même. Soit tu achètes de la prestation de service à l'extérieur, soit tu essaies d'en créer de la connaissance et tu essaies d'investir dessus en interne. Je comprends bien la frustration d'Aaron Hammer. Moi, ce que j'ai pas apprécié, c'était son ultimatum vis-à-vis de la communauté en disant après moi le vide. Et tu vois, ça m'a fait le même effet quand Pivotal a tenté de puter Groovy.
Oui, t'en as
envie de dire. Les gars, c'est de l'open source. Donc, si t'as plus envie de t'en occuper, on est désolé que t'aies pas trouvé de modèle économique autour de ça. Mais l'open source, ça a jamais été un modèle économique fiable, quoi. C'est un modèle intellectuel. Et tu vois, c'est ce que j'essaie d'expliquer à tout le monde tu vois, sur Maker, j'ai des problématiques attenantes, tu vois, j'essaie d'évangéliser les gens sur le fait que l'open device dans le secteur médical serait une bonne chose. Et d'ailleurs, j'en parlerai probablement à un moment de façon plus publique. Mais ça veut dire qu'effectivement, ton modèle économique, il n'est pas sur la production de valeur intellectuelle. C'est-à-dire qu'il faut que tu trouves autre chose à vendre aux gens. Et il y a des trucs que tu peux avoir envie de les produire, mais personne ne peut avoir envie de les acheter, quoi.
Ouais, et puis les projets qui arrivent vraiment à faire ça sont assez exceptionnels. Celui que j'ai en tête, c'est potentiellement Vue.js, où Evanews se rémunère avec un projet, un framework web open source. Mais il ne se rémunère pas.
Non. Ils se rémunèrent pas. Ils ont levé des fonds, et donc pour l'instant, ça va. Et ils pensent qu'un jour, ils vont se rémunérer. Ils ont levé des fonds.
Non, c'est Nuxt qui a levé des fonds. Okay, Evanew, via son Patreon,
il a un salaire.
Largement. Et c'est un des rares exemples qui marche extrêmement bien, et j'aurais du mal à t'en citer d'autres, en fait.
Après, c'est GitHub qui a introduit une grosse feature là-dessus. Et donc, potentiellement, ça peut changer la... Ça va peut-être changer la donne sur ce secteur-là. Je sais pas ce que ça va donner, mais ça va peut-être changer la donne.
Bah, ça l'a déjà fait, je crois. Il y a déjà des gens qui, au final, arrivent maintenant à vivre plus ou moins des sponsoring GitHub. De pas vivre, mais en tout cas avoir des revenus intéressants dans un premier temps, quoi. En complément, peut-être, de leur taf, ou je sais pas...
Le Patreon d'Evanew, c'est 163 patrons et 15 800 $ par mois. Après, j'imagine qu'ils financent 2-3 hébergements de sites web, et je crois savoir, il faudrait vérifier, qu'ils sous-financent d'autres gens, mais il a de quoi se payer déjà lui un petit peu.
Mais c'est pas les revenus qui peuvent être attendus quand, par exemple, tu vois des boîtes open source aujourd'hui faire des levées de fonds délirantes avec des VC.
Mais oui.
On n'est pas du tout sur les volumes de rentabilité qui vont être attendus par du VC. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai sujet, et ça a été abordé par des blog posts extrêmement pertinents, notamment par Brian Cantrill. Je sais pas si tu te souviens, Laurent, de ce blog post, sur le financement de l'open source par les VC, et le pourquoi ça finit toujours par plus ou moins craquer, quoi.
Les attentes sont assez pétées, en fait. T'as une communauté de développeurs, tu dis on va pouvoir les monétiser, on va pouvoir en faire quelque chose, et en fait ça marche pas forcément comme ça. C'est pas parce que t'as plein de développeurs qui s'en servent que tu peux faire de l'argent avec. Mais c'est le drame des VC en ce moment sur tous les projets Apache. Dès que t'as un projet Apache, t'as un VC qui sent le truc et dit on va faire du pognon avec ça, ouais, ou pas.
Ou Docker.
Docker. Moi, je sais pas. En fait, moi, ce qui me traumatise le plus là-dedans, alors après, c'est pas open source, parce que ça s'adresse à des Docker en tant que tooling avait presque le même positionnement qu'IntelliJ par certains aspects. J'ai toujours été impressionné par la capacité d'IntelliJ à générer de la thune là-dessus. Et Docker s'est ramassé, mais parce que Docker a eu un positionnement qui était beaucoup plus entreprise et pas très dev tooling finalement.
Ouais, enfin. Pour moi, IntelliJ, c'est quand même la grande exception du DevTools, quoi. C'est-à-dire qu'en vrai, faire de l'argent dans le DevTools, c'est rare, voire n'existe pas, et il y a IntelliJ. Et pour l'éternité, je dirais toujours, cette règle ne s'applique pas à IntelliJ, mais elle est valable pour globalement tout le monde, tu vois. Et en fait, IntelliJ, pour moi, ils existent parce qu'ils ont réussi aussi, à une époque, à rentrer dans des volumes de licences aux bons endroits, parce que peut-être aussi qu'ils ont pas été très gourmands au démarrage et que tu vois ils ont peut-être démarré très lean aussi comme entreprise, ce qui leur a permis de petit à petit grossir et tu vois au lieu d'aller tout de suite il faudra que je re-regarde l'histoire d'IntelliJ pour être bien sûr de mon coup, mais je me demande aussi s'il n'y a pas eu une certaine frugalité au démarrage.
Alors un des trucs qu'ils ont fait qui a mieux marché, c'était à la fin du monde Maya, ils avaient offert des licences à tout le monde, éternel, tu pouvais aller choper ta licence, et du coup, tout le monde pouvait essayer Ultimate et se rendre compte, en fait, de la capacité de ouf du truc enfin, ça marche parce que c'est un super produit aussi, tu vois, et ce jour-là, tout le monde a pu essayer et garder une licence, et maintenant, les devs, ils veulent, enfin, les devs, c'est énorme, les devs n'ont pas envie de bosser avec autre chose.
Ouais. Moi, j'en fais partie, hein. J'arrive toujours pas à passer à VS Code et je suis toujours sur WebStorm parce que je trouve que ça fait exactement ce que je veux.
Je vous propose de nous recentrer un petit peu sur les liens prévus. On va arrêter avec API et on va passer à une nouvelle release de Storybook, Storybook 6.0.
Oui, alors pour ceux qui connaissent pas Storybook, c'est un outil qui vous permet de présenter votre librairie de composants, votre design system sous forme d'une documentation. Mais après, c'est pas que ça, c'est aussi un outil pour le dev au jour le jour quand vous développez votre composant pour le tester dans différentes situations. On a fait un talk avec Laurent en avril en ligne sur comment nous chez Clever on utilise Storybook pour driver notre conception de composants. Donc Storybook sort sa version 6 fin du mois de juillet. Donc là ils ont sorti une bêta. Alors dans la bêta ils annoncent une composition de plusieurs Storybooks, une configuration finger in the nose de TypeScript, un support de Yarn, enfin des choses qui moi m'intéressaient pas forcément de ouf. Par contre, il y a une grosse nouveauté qui concerne ce qu'ils appellent les Storybook Args. Donc en gros, l'idée, donc avec Storybook, quand vous voulez présenter un composant, vous écrivez une fonction qui retourne un bout de template pour utiliser votre composant. Donc si vous utilisez React, qui est le framework par défaut sur Storybook, vous allez retourner un bout de JSX qui utilise MyAwesome Composant avec vos props, etc. Bien entendu, pour tous les autres frameworks, Vue, React, Angular, Web Components, c'est pareil. Mais du coup, vous aviez, quand vous voulez mettre en scène, je sais pas, un composant pour noter un film à 5 étoiles, vous allez le mettre en scène à 0 étoiles, à 5, à différentes situations en read-only, etc. Là, ce qu'il propose, c'est que la fonction qui retourne l'exemple de votre composant, elle prenne des paramètres. Et en fait, tout ce gros changement va avoir un impact un peu assez transverse sur Storybook pour améliorer pas mal de choses. Alors là, ça va plus parler à ceux qui utilisent déjà Storybook, mais ça va améliorer le système d'action, le système de nob, la gestion des thèmes du 18n. Et puis, ça permet aussi très facilement, entre deux mises en scène de composants, deux stories, de réutiliser des fixtures, en fait, des données de test. Et ce qui est assez amusant, c'est que donc nous, on utilise Storybook et Clever pour nos web components. On s'était déjà créé un système pour réutiliser des données de test entre différentes stories. Donc, ça va dans le même sens. Ça, c'est assez intéressant. Ce qui est difficile à comprendre actuellement, c'est comment ça va marcher avec les autres frameworks que React, mais c'est un des changements que je trouve intéressant et qui est à surveiller. Voilà, donc on attend un peu la release table et on attend surtout de voir un peu des exemples, parce qu'hier quand j'essayais de charger l'exemple de la bêta, Ventilo s'est lancé et ça n'a jamais chargé, que ce soit avec Chrome ou Firefox. Donc à suivre.
Pour ceux qui n'utilisent pas Storybook au quotidien et en tant que non-développeur JS, c'est vraiment génial. Quand vous discutez avec votre équipe de front, vous avez quelque chose de propre et qui permet de collaborer et de discuter facilement. Et par ailleurs, ça fait une partie des tests naturellement. Ça fait une partie de tests qu'on pourrait qualifier de tests d'intégration. Se fait assez naturellement dans les équipes, ce qui n'était pas nécessairement le cas avant dans vos équipes. Et du coup, c'est vraiment une bonne pratique que je recommande d'utiliser. Et si vous faites déjà des frameworks Vue, Angular, React, c'est très facile à intégrer, puisque du coup, vous y intégrez vos composants. Et si vous êtes parti comme nous, web composants un peu bare, parce que vous voulez quelque chose de très épuré, ça s'intègre hyper bien et ça permet de bosser vraiment proprement et ça vous empêche d'avoir de cesse de fichiers de test un peu pourris, oui. De toute façon vous allez faire, donc prenez le temps de setup ça si jamais vous faites du web composant ou même sans, vous allez y gagner du temps, vous allez y gagner beaucoup de temps au global.
Ouais, pareil, j'ai même ressenti, même si je l'ai un peu utilisé au final au tout début, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique pour développer des petits bouts de graphique ou autre, dans un environnement qui est fait pour, quoi. Et c'est vraiment sympa, quoi.
Voilà. Cool. Et juste avant de passer à la suite, je précise que le storybook qui présente tous les composants de Clever Cloud est public. On mettra le lien dans les show notes. Voilà.
Ok. Alors, lien suivant, Date and Times in JavaScript. Enfin, une proposition de spec, c'est ça?
Je peux faire l'intro au début, vite fait, ok?
Vas-y, Arnaud.
L'aspect existe depuis un petit bout de temps. Je saurais pas trop dire quand, mais enfin, il existe depuis quelques mois, années, on va dire.
Ouais,
toujours est-il que là, je crois qu'ils ont enfin sorti un premier. Ils ont sorti il y a quelques temps un premier draft, on va dire, d'utilisation de l'API, en fait. Pour avoir une API beaucoup plus simple à utiliser que l'API actuelle de Data JavaScript, qui, en fait, apparemment, a été basée sur Java Util Date. Ouais. Des années 95, 96, par là.
Bah, ouais, dès le début, en 95, l'idée, ouais, c'était ça.
Donc, sur une très vieille API, et qui elle-même, en fait, a été dépréciée, du coup, en 97, côté Java. Donc, au final, voilà. Mais du coup, ils sont en train de, en tout cas, les personnes écrivant cette spec sont en train de chercher des réponses à certaines questions, ouais, des feedbacks, voilà, à travers un sondage qu'ils mettent à disposition aux développeurs qui utilisent pas mal de data en JavaScript, je suppose. Donc, si vous avez un peu de temps pour remplir le feedback et dire ce que vous aimeriez avoir ou qu'est-ce qui vous dérange peut-être dans l'API actuelle, du coup, qui est utilisable en polyfill, parce que je ne crois pas qu'elle soit encore implémentée dans les browsers, même à ce stade si avancé.
Non, en fait, ce qui est bien, c'est que donc, cette nouvelle spec, moi, je la surveille depuis 2 ans, au moins, c'est un brouillon. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un standard qui est proposé, qui n'est pas proposé par un browser vendor, qui est proposé par Igalia, qui est une boîte de consulting qui bosse énormément, qui commit sur tous les browsers open source. Ils commit pas mal sur WebKit. Et donc, leur proposition a vachement évolué récemment, à tel point qu'ils ont enfin, comme tu le disais, publié une espèce de polyfill, donc une version de l'API, mais en librairie. Et ce qui est bien, c'est que par rapport à d'autres features, c'est très facile à polyfiller, vu que c'est un nouvel objet qui s'appelle temporal, sur lequel on a d'autres objets, absolute, time zone, date time, etc. Et donc, ce qu'ils proposent, moi, je vous conseille vraiment de l'utiliser, c'est via ces objets qui chacun représentent des concepts très particuliers. Je vais donner 2 exemples. Absolute représente un point très précis dans le temps. Donc en gros, c'est un timestamp, mais avec plein de méthodes autour et de manières de le créer et de l'instancier. Ils ont enfin un système de time zone qu'on va pouvoir utiliser, et chaque implémenteur devra packager la TZDB, donc on aura vraiment un truc assez puissant. Et après, bah, ils ont aussi un objet time, un objet date, qui eux représentent juste ce qu'ils appellent des wall clock time ou calendar date. C'est une heure, une minute, mais sans notion de time zone ou de mois ou d'année. Et ensuite, cet objet, vous allez pouvoir dire, bah, je le passe sur telle année ou telle time zone. Et donc, ça répond vraiment à énormément de besoins qu'on avait. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on ne représente pas un anniversaire en timestamp, vu que bah, moi, mon anniversaire, si je vais aux États-Unis, je ne vais pas le fêter la veille ou je ne sais quoi. Donc il y a des choses assez puissantes là-dessus, et il y a des API plus Magnus, Diff, pas mal de choses qu'on va retrouver bah, chez Moment ou d'autres librairies. Donc moi je vais enfin prendre le temps.
C'est pas uniquement la certification de Moment.js en fait.
Ça va non, loin de là. Surtout, alors c'est plus bas niveau. Et sachant qu'une partie de ce que fait Moment.js et tous ses copains, notamment le formatage i18anisé, enfin internationalisé, ça c'est déjà arrivé dans les browsers via le datetime format. Et donc là on est plus sur manipulation, ramener un timestamp à juste une date jour mois année, rajouter tant de minutes, enlever un jour, etc. avec une API qui marche jusqu'à la nanoseconde. Tu te souviens, Arnaud? Je sais plus, ça, j'ai un doute.
Ah non, ça, j'ai pas fait gaffe.
Ou microseconde, et qui,
micro, ouais.
Ouais, et qui a du plus minus, etc. Moi, je trouve ça vraiment prometteur parce que le jour où ça sera implémenté dans les browsers, en attendant, on va packager le polyfill qui va pas être très très gros, et quand on se sera packagé, on aura même plus besoin de ce polyfill. Pour rappel, Moment, ça pèse une tonne, quoi. Enfin...
Après, ça pèse une tonne si t'inclus, je crois, les différentes traductions et tout. Je crois, si tu prends juste le core sans les trads, c'est un peu plus light.
Sans les trads, je trouve que ça pèse quand même beaucoup. Mais...
Ah oui, ok. Non, en fait, ce qui est vraiment cool avec cette API, le temps que tu cherches, c'est que par exemple, en Rust, il y a une API du style dans la standard library qui te permet de faire déjà ce genre de choses. En Java, je suppose qu'il y a aussi ça. Du coup, c'est quelque chose qui est de manière moderne, enfin, qu'en fait qu'on aurait dû avoir il y a très longtemps. Et c'est vrai qu'à chaque fois, inclure Moment ou autre, qui a aussi ses défauts, c'est un peu fatigant. Ouais, moi, personnellement, je ne l'ai pas encore testé, donc à voir. Et a priori, voilà.
Moi, j'ai juste testé très vite fait, mais dans un Ripple. Quoi. Moment, ça fait 70K minifié JSP. Pour ceux à qui ça ne parle pas, je ne sais pas, mais moi, ça me parle et je trouve ça énorme.
C'est beaucoup.
Voilà. Donc, répondez et testez et répondez au sondage. Moi, je compte le faire.
Ok, moving on to quelque chose de complètement différent. Arnaud, je crois que c'est toi qui as mis le lien Cloudflare, making the WAF 40% faster.
Ouais, c'est ça, c'est moi. c'est un article que Cloudflare a sorti il y a une ou deux semaines, voilà. Qui explique en fait comment est-ce qu'ils ont réussi à rendre leur web application firewall beaucoup plus rapide. Donc, pour un petit peu de contexte, en fait, Cloudflare, du coup,
chaque requête. Qu'est-ce qu'un WAF?
Ah, bah justement, c'est ce que j'allais un peu expliquer, je suppose. C'est un firewall, du coup, donc un pare-feu ou un mur en feu, comme on veut, qui en fait scanne, on va dire. En l'occurrence là, des requêtes HTTP, en tout cas des requêtes web, je suppose, et qui suivant des patterns ou autres les dismiss en fait, enfin les supprime, je sais pas, parce qu'elles sont soit malicieuses, soit je sais pas, il y a des règles qui font qu'elles ne passent pas. Et en fait, bah du coup, Cloudflare, à chaque requête qu'ils reçoivent, en fait, bah votre requête est justement passe à travers un set de rules qu'ils ont définis. D'après eux, il y en a plusieurs milliers, je crois. Donc chaque requête en fait que vous faites qui passe à travers Cloudflare passe à peu près 1000 et quelques tests avant d'être routé ou non sur le serveur final, ce qui peut prévenir des attaques on va dire DOS ou autres ou des exploits divers. Et donc en l'occurrence là pour rendre en fait leur WAF plus rapide, ils se sont rendus compte que il y a pas mal en fait d'opérations qui étaient réalisées plusieurs fois pour chaque requête. Dans l'exemple qu'il donne, il décode en fait à chaque fois le body ou les headers, et en fait, ils le font à chaque fois pour plusieurs tests en fait. Imaginons qu'ils ont 10 tests, dans ces 10 tests, il va y avoir 6 fois où ils vont décoder les headers et 6 fois où ils vont décoder le body. Et en fait, on se rend compte que décoder le body ou les headers d'une requête, ça ne va pas te donner un résultat différent si ton input est le même. Et du coup, ils ont commencé en fait à cacher. Via le concept de la mémorisation, je sais pas trop comment ça se dit, voilà. Mais en fait, c'est ça, il cache l'output en fait de certaines fonctions qui ont des inputs similaires, ce qui fait qu'en fait, ils peuvent gagner énormément de performance et éviter à chaque fois de recalculer des données en fait qu'ils ont déjà calculées juste avant ou juste après, quoi. Et donc en fait en faisant ça, ils se sont aussi rendu compte que ils avaient certaines forcément fonctions qui pouvaient être mieux placées les unes après les autres, certains tests qui avaient plus de sens d'être passés à la suite plutôt que de manière disparate pour justement gagner du temps CPU et du coup éviter que la requête prenne trop de temps à être traitée avant d'être routée vers vos backends. Globalement, c'est à peu près comme ils ont fait, sachant qu'avant c'est du Lua leur WAF, donc c'est vraiment marrant. Lui a apparemment un langage de scripting assez puissant, en fait, qui s'intègre bien, je crois, dans du C ou des trucs du style. Je n'ai jamais vraiment utilisé.
Ouais, c'est utilisé pour les extensions Nginx, par exemple. Ou...
Ouais, voilà.
C'est ça. Alors, c'est aussi utilisé pour
scripter les jeux vidéo.
Voilà, World of Warcraft. Ouais. ton UI à toi d'Ambo. Moi, ce que j'aime bien en plus, c'est que leur syntaxe est inspirée par Wireshark, et je trouve ça très cool d'utiliser un truc
assez... Ouais, c'est vrai que c'était assez proche, ouais. C'est ça, donc c'est vraiment intéressant comment ils ont fait. Voilà. Je connaissais pas le principe de ce cache-là, mais...
Quentin, Hubert, un avis?
Non, moi je me demandais, c'est un truc qui est exécuté à The Edge en Lua sur les...
Parce que
c'est un service à part de Cloudflare qui a rien à voir.
Non, c'est en général c'est à The Edge. Alors c'est peut-être pas dans tous les Edges, mais c'est à The Edge et c'est le réseau après de Cloudflare qui prend ça en charge. Quoi. La grande force de Cloudflare, c'est qu'ils ont foutu un nombre de baies partout sur la planète de fou furieux.
Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en parlant de Sky. J'ai déjà oublié le nom. Que si tu veux commencer à concurrencer ce genre de choses, bah, faut te lever tôt parce qu'il y a un investissement de bruit, quoi.
Yes.
Ouais, surtout qu'eux, ils ont tout fait à fond perdu.
Moving on. On passe à Microsoft qui annonce le drop du support officiel PHP. Alors, on n'a pas trop compris pourquoi, mais en tout cas, c'est annoncé. Arnaud?
Ouais, alors, ils annoncent le drop du support des binaires PHP buildés par Microsoft.
Ouais. Mais ce qui, à chaque fois que je crois que tu téléchargeais un binaire sur php.net, entre autres, enfin, en tout cas, windows.php.net, voilà, bah, c'était en effet compilé par Microsoft. Ainsi que les différentes extensions, d'ailleurs, qui peuvent être fournies avec Apache, etc., quoi. Donc, ils le faisaient pour la version 7, en tout cas, et peut-être pour les versions avant, j'avoue, je connaissais pas trop ça. Mais du coup, ça veut dire que maintenant, ça va être le projet PHP qui va devoir s'en charger pour fournir des binaires officiels pour Windows. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas trop la raison derrière cet arrêt.
Et en tant qu'utilisateur, ça change grand-chose? Alors,
a priori...
Pour l'instant, ce que ça change, c'est que tu n'as pas de binaire de build.
Alors, t'en as un pour juste la RCZ, enfin, t'as une RC quelque chose pour PHP 8. Bref, ils l'ont fait pour celle-là, mais en tout cas, pour les prochaines, ils ne le feront plus. Donc, pour l'instant, t'es OK. Mais lors de la release PHP 8, du coup, je crois qu'on en parlait, c'était genre en octobre ou novembre de cette année, bah, il faudrait que le projet PHP puisse trouver un moyen en fait de release ses binaires eux-mêmes. Et bah, forcément, c'est un temps de travail supplémentaire pour tester, etc. Donc, évidemment, c'est un peu de tristesse de la part des développeurs PHP, enfin des mainteneurs PHP plutôt, de voir ce partenariat partir. Après, bon, voilà, c'est la vie, hein, on va dire.
Ouais, je suis pas nécessairement... Moi, je pense que Microsoft va pousser, tu sais, ils ont une nouvelle CLI, Brouche, Chocolaterie-like, machin, qui sont en train de pousser pour permettre, tu vois, l'installation de logiciels en CLI et ce genre de trucs, et je pense qu'ils vont pousser ce genre de trucs, et que, du coup, ils coupent petit à petit tous ces partenariats-là spécifiques pour essayer de tout pousser dans ce trunk-là. À mon avis, c'est ce qui va se passer.
Ouais, ça, ou alors ils disent que maintenant qu'il y a WSL2 qui est utilisable, tu peux faire tourner ton PHP dans WSL2 et puis t'embêter, je sais pas.
J'avoue que moi, si je devais refaire du PHP sous Windows, je m'intéresserais essayer de le faire marcher dans WSL2, je pense. Je sais pas.
Ouais. Après, de là, le faire tourner sur des serveurs...
Ça dépend de la culture des gens, ça. Toi, tu t'intéresserais parce que t'as déjà une...
Oui, bien sûr, par habitude, hein, ça dépend...
Moi, je connais pas assez ce monde-là pour savoir si les gens qui ont une culture pure 100% Windows seraient dans ce cas-là ou pas. Je sais pas.
Mais j'ai commencé avec moi.
Il y a beaucoup de gens qui font du PHP sous Windows parce que c'est leur poste de travail et qu'on voit sous Linux derrière. Et c'est vrai qu'il y a des comportements différents entre PHP Windows et Linux qui sont relativement forts. Donc beaucoup faisaient déjà soit du container Linuxifié via Docker qui pour finir te fait tourner une VM, soit des VM, soit whatever. Et donc du coup, il n'est pas impossible qu'en fait ça représente une part de marché extrêmement congrue, le binaire Windows en fait.
Ouais. Ah ouais, moi je sais pas si ça a beaucoup évolué, mais sur PHP 5 et toutes ces différentes sous-versions, les différences entre Windows et Linux, sur le cache, sur des accès FS et autres, il y avait pas mal de détails, c'était relou.
Ok. On reste dans le monde Windows, on passe au lien suivant, c'est une faille de sécu DNS. Arnaud Lefebvre, c'est toi, je crois.
Ouais, c'est ça, moi j'aime bien Windows, tu sais. ouais, du coup, ils ont, enfin, hier est sorti le patch Tuesday de Microsoft. Donc, le patch Tuesday, c'est un patch de sécurité qui est release tous les premiers mardis de chaque mois par Microsoft. Et dedans, il y avait en effet un patch en fait pour corriger cette faille qui est une vieille faille en effet de sécurité qui permet à un attaquant à distance d'exploiter un problème en effet dans le service DNS de Windows, donc DNS.exe, donc qui doit tourner avec des privilèges élevés, je suppose, forcément, et qui en fait à cause d'un buffer overflow permet en fait de prendre potentiellement contrôle de la machine. Et ce qui rend la chose évidemment un peu plus marrante, c'est que c'est wormable, c'est-à-dire vous pouvez très bien infecter aussi les machines aux alentours. Et en général, dans un réseau Windows, en fait, toutes les machines sont connectées entre elles, sont auto-discover entre elles, etc. quoi. Donc un peu à la sauce WannaCry à l'époque. Alors ça chiffre pas le disque évidemment, mais c'est un peu dans ce même acabit quoi.
Donc, ouais, c'est chaud.
Du coup, c'est vraiment compliqué.
Là. Et t'as Ils ont publié s'ils connaissaient des experts.
Alors ils disent que non, ils n'en trouvent pas. Mais en général, en fait, les patches Tuesday sont rapidement disséqués, on va dire, et les exploits fleurissent ici et là après quoi. Donc là, si tu on va dire dans les prochains peut-être heures, jours, c'est ok, tu vois. Mais je pense que dans une semaine, même avant, ouais. Probablement, ce sera.
C'est une faille qui a 17 ans, tu vois. Tu te dis, est-ce qu'il n'y avait pas des exploits dans la. Dans la nature, quoi, je sais pas. T'es mute.
Ah oui, j'ai pas cliqué sur le bouton. C'est le problème de genre de choses, en fait. Tu peux jamais vraiment savoir quand est-ce que t'as des exploits qui sont en cours ou pas. Après, en général, ça peut très bien, tu peux avoir de la chance et ne pas en avoir, ou alors c'est un qui garde ça sous le capot et qui s'en sert très rarement.
Ouais.
Donc mettez à jour si vous avez des machines Windows, en tout cas des serveurs, je crois pas que les machines genre Windows personnelles sont vraiment impactées, de toute façon généralement t'as un routeur avant qui filtre le truc. Bon,
ouais, ils disent que c'est à 17 ans la faille, bon. Du coup il y a une liste des Windows touchés.
J'avoue, j'ai pas fait attention, il me semble avoir vu Windows Server.
Il y a toujours une liste des serveurs touchés.
Donc après, est-ce qu'ils vont patcher les instances XP, tu vois, ça j'en sais rien.
Ah c'est ça, ouais.
Ah, voilà, du coup, c'est plutôt un gros big deal après les quelques problèmes de sécurité qu'il y a aussi les semaines passées sur, je sais plus quoi, c'était sur les routeurs ou je sais pas quoi, les composants F5 là. Bref, il y a pas mal de travail du coup pour les systèmes, malheureusement, en ce moment.
Alors, on passe à quelque chose de complètement différent. C'est un article en français et c'est parser des choses en Rust avec NOM. Ça, ça vient de Quentin Adam.
Ouais, c'est les gens de chez Vanois, qui est une boîte de consulting spécialisée plutôt en PHP, qui ont publié ça. Donc NOM, pour ceux qui ne savent pas, c'est un framework qui permet de faire du parsing en Rust, qui soit à la fois safe et très rapide, et qui a été inventé par quelqu'un que vous voyez régulièrement ici, parce que c'est Geoffroy Coupry qui a inventé ça. Et en fait, c'est un très très bon système pour générer des parseurs. Et donc vous pouvez vous en servir en Rust, mais du coup vous pouvez également builder des parseurs en Rust et les utiliser en WebAssembly dans le browser. Il y a eu plusieurs tests, hein, notamment des tests qu'ont pas nécessairement trouvé leur chemin sur la prod, mais qui étaient intéressants quand même, comme le nouveau format de fichier éditorial un peu compliqué de chez WordPress, ça s'appelle Gutenberg, qui est extrêmement lent à parser par leur UI. Il y avait des tests pour parser Gutenberg en NOM. Et là, tu gagnais beaucoup de perfs en fait en le faisant. Puis en fait, le NOM est bien packagé en WebAssembly et tu le pousses côté client. Et après, tu interagis avec en JS. Et j'ai trouvé que cet article était bien fait. Il est en français, il est facile à comprendre et il vous permet effectivement de comprendre comment faire du NOM de façon simple. Et c'est pas notre équipe du tout qui l'a fait. Et je trouvais que c'était vraiment bien fait. Donc voilà, je trouve que c'est cool de faire ça. Et c'est un bon article.
Et ils l'ont pas mis en prod, du coup, le truc de... Parce que j'avais entendu parler de ce que tu dis sur WordPress.
Non, ils l'ont jamais mis en prod. La personne qui a codé ça chez Automatique, c'est tiré d'Automatique depuis et est parti bosser chez Wasler, si la mémoire est bonne. Wasler, que nous utilisons dans le Function as a Service de Clever Code. Ouais. Donc voilà.
Tout à fait.
C'est un article qui est bien pour comprendre ces problématiques de parsing et du coup ça vous permet d'utiliser NOM dans des contextes simples. Enfin, dès que vous avez des problèmes de parsing, NOM peut répondre utilement à ces problèmes de parsing. C'est ça le point.
On va rester dans le monde Rust avec un projet qui a beaucoup évolué, qui est un projet assez vieux. On avait parlé en interne il y a très longtemps, qui s'appelle PGX. Et c'est pour construire des extensions Postgres en Rust. Et c'est enfin mature. C'est enfin.
Ouais, tu peux faire à peu près tout ce que tu veux aujourd'hui comme extension. Et tu vas du coup pouvoir intégrer ton extension PostgreSQL directement en Rust, ça s'intègre bien, ça supporte V10, V11, V12, donc ça a un taux de couverture extrêmement large. Ils ont fait de la rétrocompat, ce qui est quand même rien de sympathique de leur part. Ils ont fait une série de macros qui permet d'aller te hooker dans le système de PG avec ton Rust, et je trouve que c'est vraiment propre parce que ça permet de commencer à aller coller du Rust dans ton PG, et notamment si tu le combines avec NOM. Tu peux utiliser le système pour créer des nouveaux types natifs de PG basés sur de la capacité à parser des valeurs binaires compliquées. Donc, par exemple, tu pourrais demander les couleurs dominantes d'une image si jamais tu as des JPEG stockés en binaire dans le système, et tu pourrais faire ce genre d'extension en fait en PG simplement.
On a des exemples de gens qui utilisent ça.
Il y a des exemples sur le
genre. Moi, j'ai fait mon type. Pardon ?
Il y a des exemples ouais, sur le site.
Ouais. Ouais, j'ai vu des exemples, mais on connaît des gens qui mettent en prod des extensions codées avec ça.
Moi, j'en connais pas, mais probablement.
Les gens qui ont fait ça, je suppose qu'ils l'ont fait pour de bonnes raisons.
Oui, non, mais c'était juste pour avoir des exemples. Ok.
Après, je sais que les gens qui font ça, c'est des gens qui s'appellent ZomboDB. Les ZomboDB, c'est des gens qui intègrent Elasticsearch à l'intérieur de PG pour que tu parles à ton Elasticsearch depuis ton PG et que la relation avec ton Elasticsearch soit transparente. Et du coup, je suppose que leur extension doit être sans doute faite en Rust ou alors en partie en Rust. Mais globalement, ZomboDB, c'est une extension PG pour play avec ta data Elasticsearch.
Toujours en Rust, on fait un petit coucou à notre ami Randindi qui a open sourcé les projets de Zama Crypto, c'est pour faire de la crypto homomorphique, on en a parlé il y a quelques mois, et qui cherche du feedback, donc s'il y a des rusters intéressés pour donner leur avis.
Ouais, envoyez-moi un mail en direct, je vous fais une intro à Rand. Rand cherche des gens pour son système de chiffrement homomorphique, donc je vous envoie, il y a 2-3 épisodes, on en a parlé du chiffrement homomorphique. Regardez ce que c'est, globalement c'est très intéressant, et je pense qu'ils ont besoin de gens qui font du Rust et du ML, quoi, globalement. Et ou du ML, je pense que c'est ça le point.
Et ou du ML. Et dernier lien, un peu à la bourre, vers la fin des forfaits Internet fixes limités en France, ça a fait pas mal de bruit sur Twitter dans certains milieux, le Conseil national du numérique dit que, au nom de l'environnement, il faudrait arrêter les forfaits illimités. Quentin, c'est un de tes liens, je vois que ça te rend joie.
Oh, mais franchement, c'est n'importe quoi. Enfin, le truc qui n'a aucun sens, c'est t'as un pays dans lequel on consomme une énergie délirante pour faire du transport de marchandises, de gens, pour chauffer les bâtiments mal optimisés, etc. Et on va aller discuter de poulième, de pourcentage d'électricité qui sont même pas faciles à générer. Enfin, aujourd'hui, tu peux avoir une antenne, fondamentalement, que l'antenne, elle émette ou qu'elle émette pas. Enfin, je veux dire, à pleine puissance, ça change rien. Tes réseaux, enfin, ta fibre, la quantité d'énergie qu'il faut pour éclairer tes fibres, ça change rien. La conso des DC, ok, les DC consomment un peu, mais c'est tellement poulimique par rapport au reste. T'as vraiment l'impression de voir une bande de gens qui bossent dans la tech, qui sont tous des bobos, qui ont envie de vivre green, qui vont à l'épicerie sans emballage. Oui, je sais, moi, autour de chez moi, j'en ai 3 qui ont ouvert, donc moi aussi, je me balade avec mes pots pour aller chercher du sans emballage, tout ça, et qui ont envie de dire, genre, hey, nous, on fait tout bien. On fait vraiment tout au max comme bien. Et donc, on va limiter la conso, alors que ça n'a aucun sens. Enfin, aujourd'hui, si on peut limiter les transports de gens, c'est des réunions qu'on fait en virtuel. Enfin,
La logique de ce truc-là n'est pas tant de limiter la conso en tant que telle que de faire un appel à la sobriété en disant si on limite la conso, les gens vont utiliser moins de trucs. Et on sait tous que c'est faux, que ça marche pas comme ça. Mais l'idée derrière ça est de penser que t'as un lien entre la conso illimitée et la quantité de services que consomment les gens. Et donc cet appel à la sobriété, c'est pour au final dire arrêtez de consommer autant de services coûteux. C'est pas tant lié à la bande passante entre guillemets et au fait que tu dois alimenter les trucs qui te filent du réseau. Parce que ça, on est tous d'accord que c'est débile. C'est pas le sujet. L'idée derrière, c'est d'appeler les gens à la sobriété numérique. Et je pense qu'il y a des tas de choses à faire avant.
Ouais, alors un, je pense que si on veut mettre du blé dans des trucs, il y a des trucs dans lesquels on peut mettre du blé. Deux, la conso énergétique de toutes les choses va vraiment diminuer, entre autres grâce à la 5G, la capacité à aller tout coller en edge. Enfin, la conso de ce genre de service est relativement faible et le volume de data est pas nécessairement qui passe dans le tuyau est pas nécessairement un bon indicateur de la quantité de ressources serveurs qu'il faut en termes de chauffage pour faire sortir le truc. Enfin, aujourd'hui, si tu sors un énorme fichier, il est gros, alors que, en fait, si ça se trouve, il est juste posé sur un Nginx qui te sert. Enfin, c'est pas très intéressant. Et je
mais
pense
c'est ça
que
j'avais demandé. Est-ce que quelque part, que ce soit dans cet article ou dans les rapports faits par le CNUM, est-ce que quelque part il y a du concret sur, on a analysé, les gens ils consomment tant, ça fait tant de CO2, si on fait ça, ça baisserait. Parce que là, j'ai l'impression que c'est basé sur beaucoup de bon sens qui n'en était pas.
C'est idéologique, c'est vraiment, derrière, on se dit, si on bride, les gens consommeront moins. Et s'ils consomment moins, ça fait moins de CO2. Pour moi, c'est de l'idéologie pure.
Ouais, sachant que dans le secteur de la santé, ça va donner des catastrophes, comme si on réduit le nombre de médecins, il y aura moins de malades. Donc, c'est vraiment une pensée. Je vous jure que ça a été écrit dans des rapports du ministère de la Santé.
Trump, il a dit qu'il fallait arrêter de compter pour que ça descende.
En fait, c'est une idéologie qui n'a pas de sens, dans le sens où, d'abord, au CNUM, ce serait bien qu'on foute un ou deux techniciens. Parce qu'en fait, aujourd'hui, au CNUM, il n'y a pas de tech, il n'y a pas d'ingénieurs. Résultat des courses, la quasi-totalité des trucs qui sont dits à propos d'Internet et du numérique sont dits par des gens qui sont utilisateurs-vendeurs, mais qui n'ont pas une approche rationnelle des choses comme des ingénieurs. Et donc, tu te retrouves dans des débats de posture qui sont beaucoup empreints d'une espèce de d'auto-flagellation plus ou moins géo-chrétienne du « Oh oui, c'est mal, il faudrait qu'on fasse moins, il faudrait qu'on se donne du mal pour faire moins, et comme ça, Mère Nature serait contente. » Et ça n'a aucun sens.
Est-ce qu'il y a des prises de position publiques ou des retours de la part de Niel, de Richard, de...
Oh, mais sur ce genre de truc, ils préfèrent ne rien dire, attendre que ça se passe.
Ouais.
Et d'ailleurs,
j'en sais rien, je demande.
Après, ils sont pas nécessairement contre, hein, parce que la fin des forfaits illimités, les opérateurs sont pour, factuellement.
J'imagine, mais du coup.
Et regarde comment ça se passe chez nos voisins, tu vois, en Belgique, t'as pas de forfait illimité, et du coup, les gens sont déprimés, quoi. C'est vraiment compliqué à gérer.
Et ils se font tondre. Je rappelle qu'aux États-Unis, aujourd'hui encore, ton forfait internet chez toi, c'est un forfait où t'as un nombre de gigabits. Et donc, en fait, tu payes au gigabit. Et en France, l'arrivée du triple play et le all you can eat sur le forfait, c'est une innovation et c'est un truc qui permet à notre pays d'être un des pays qui produit les meilleurs ingénieurs, etc. Et donc, il faudrait surtout pas limiter les gens. Parce que il est évident que les opérateurs diront rien. Parce que eux, si la réglementation les oblige à te faire payer plus cher, ils vont pas se plaindre, les mecs. Donc non, pour moi c'est un jeu de dupes et c'est un jeu de dupes porté par des gens qui fondamentalement aujourd'hui comprennent rien à la sauce. Si t'as envie de réduire aujourd'hui la consommation énergétique du pays, je pense que faire diminuer la taille des tuyaux qui arrivent chez toi en numérique, c'est probablement la dernière des options pertinentes à regarder, quoi. Isolons les logements dans lesquels arrive le tuyau. Là on pourra discuter de faire quelque chose.
Ça a commencé, hein. Que ça a commencé ça, ce qui est une bonne nouvelle.
Diderot qui vit sous les toits et qui donc actuellement.
Écoute, aujourd'hui je veux pas. Il est temps de procéder au choix musical de la semaine. Je suis de 1 à 5, Hubert de 6 à 10 et il croise les doigts. Arnaud de 11 à 15 et Quentin de 16 à 20. Et j'ai fait J'ai encore fait un, c'est un échec critique. J'en ai marre de proposer ma soupe. Alors du coup là j'ai fait 17 et donc c'est Quentin Adam.
Ah trop bien ! Vas-y, clique sur le lien, on va pouvoir écouter tout de suite. Le groupe s'appelle Gogo Pingouin.
Gogo Pingouin.
C'est une honte.
Alors en fait, ces gens, c'est un trio de jazz venu de Manchester, donc vous avez un truc classique, piano, contrebasse, batterie. Les trois instrumentistes sont brillantissimes, je les ai découverts il y a quelques années, ils sont extraordinaires en concert, et j'ai trouvé la totalité des albums grandiose, et j'ai attendu avec énormément d'impatience le dernier album qui sont sortis, qui est celui dont est extrait Cora, qui a été joué. Il est sorti en juin dernier, l'album. Je le trouve très très bien encore. Si vous n'écoutez jamais de jazz, et donc au moment où je vous dis c'est du jazz, vous avez pensé à la chanson de Boris Vian, Je suis snob. Écoutez-le, parce qu'en fait le jazz, comme toutes les musiques, change, et c'est nouveau, ça a des choses proches de l'électro, c'est des gens qui sont inventifs, c'est très composé comme musique, et c'est en fait assez facile d'accès. Voilà, je vous invite à tester ce que font ces gens. Je trouve ça vraiment magnifique.
Ok, et bien, merci beaucoup à vous et à les auditeurs et à vous les chroniqueurs. On se retrouve la semaine prochaine. Et dites tout ce que vous en avez pensé du nouveau format. On utilise un truc qui s'appelle StreamYard. C'est tout neuf. On veut bien du feedback là-dessus. Au revoir.
Au revoir.
Merci à tous. Au revoir.
Salut.